BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé. Les cancers sont en progression constante, mais les progrès thérapeutiques progressent aussi à vitesse grand V. Quel discours tenir aux patients? Rémission, guérison, lui dire la vérité, le rassurer sur son avenir? Eh bien, c'est l'objet d'une réflexion interdisciplinaire, espoir de guérison, soutenue par le laboratoire AstraZeneca. Pour nous en parler, trois personnalités impliquées, le professeur Pascal Hamel, oncologue digestif à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, Laure Guérou-Acolas, directrice générale de l'association Patients en Réseau, et Oriane Cano-Chancel, vice-présidente oncologie hématologie chez AstraZeneca France. Justement, le sommet Choose France s'est tenu cette semaine, mettant en avant l'activité et l'attractivité de la France. Et deux sujets ont été particulièrement abordés, la santé et l'intelligence artificielle. Frédéric Collet, président de la filière IA et cancer, va nous la présenter. Enfin, Alexandre Regnault, avocat et patron de la santé et sciences de la vie chez Simon & Simons, va nous dire comment l'IA révolutionne le monde juridique en santé. Sans oublier, bien sûr, la chronique de Rémi Teston. Check-up santé, c'est parti. Oriane Cano-Chancel, bonjour.
Bonjour.
Pascal Hamel, bonjour.
Bonjour.
Laure Guérou-Acolas, bonjour.
Bonjour.
Alors, Oriane Cano-Chancel, vous êtes vice-présidente d'oncologie et hématologie chez AZ. J'ai tellement l'habitude de dire AZ.
AZ, ça passe.
AZ France. Pourquoi avoir mis en place cette réflexion espoir de guérison?
Comme vous le disiez, il y a eu énormément d'innovations thérapeutiques ces derniers temps. Et donc, ça nous semblait à la fois nécessaire et à la fois audacieux de monter cette réflexion. Nécessaire parce qu'effectivement, et c'est une très bonne nouvelle, un diagnostic de cancer ne veut plus du tout dire une issue fatale. On a des chances de rémission, on a des chances de guérison qui sont de plus en plus importantes et ça change très très vite. Il est donc important de voir comment est-ce qu'on peut communiquer à la fois quand on est professionnel de santé, quand on est patient, quand on est aidant. Et lorsqu'on a commencé cette réflexion, c'était il y a plus de 2 ans, on voulait initialement l'appeler guérison et on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de scepticisme, je pense que...
Notamment de la part des professionnels de santé
Des professionnels de santé, parce que certes, l'espoir de guérison est de plus en plus important, mais il y a aussi une incertitude. Et donc, on a fait évoluer cette réflexion pour arriver autour de cette notion d'espoir de guérison. Donc, c'était audacieux, je peux dire, de continuer, malgré ce scepticisme. Mais on a vu lors de cette réunion à quel point il y a eu des prises de conscience, à quel point il y a eu de l'émotion et à quel point, effectivement, c'est nécessaire de parler d'espoir et de lever les tabous autour...
Justement, avec qui l'avez-vous mis en place, cette réflexion?
Donc, on a vraiment voulu avoir des regards croisés, à la fois avec des professionnels de santé, et le professeur Hamel fait partie du comité scientifique, à la fois des patients et des associations de patients, entre autres Laure Guérou-Acolas, et on a mis tout le monde autour de la table pour vraiment avoir ce dialogue et ces regards croisés.
Pascal Hamel, donc vous êtes chef de service, vous êtes chercheur, vous êtes chef de service en oncologie digestive à l'hôpital Brousse Villejuif. Que dit-on à un patient qui a été traité pour son cancer? Est-ce qu'on lui dit qu'il est guéri? Est-ce qu'il, quand ça se passe bien?
Vous employez le passé composé qui a été traité. Beaucoup de patients sont traités au long terme. C'est-à-dire qu'on a transformé, pour ce qui me concerne, des maladies très graves. Ouais. Cancer du foie, du pancréas, digestif.
Vous êtes un peu spécialiste, beaucoup même spécialiste du cancer du pancréas.
Et on a transformé l'idée que voilà, c'était une issue fatale à court terme. C'était moins d'un an de survie en général.
Pour le cancer du pancréas.
Pour le cancer du pancréas en particulier, bien sûr. Et on a transformé ce pronostic effroyable en une maladie assez souvent chronique, qui génère d'autres problèmes. Parce que vivre avec une maladie potentiellement mortelle, mais qui n'est pas guérie, c'est un espèce d'entre-deux qui est pas facile, dont évidemment tout le monde se satisfait, les gens autour, dans l'entourage.
Enfin, là, vous parlez d'un des cancers les pires. Mais sinon, le cancer...
Alors, pour les autres cancers qui sont guéris, bien sûr, il y a des cancers pour lesquels on peut dire aux patients, c'est terminé, vous êtes guéri, des cancers hématologiques, des cancers du sein débutant, des cancers du côlon débutant. Bien sûr, on peut dire ça. Et on le dit avec plaisir. Il y a toujours cette réserve, parce que être sûr à 100% que c'est guéri, souvent on se donne 5 ans, ce qui est un délai un peu artificiel, parce que certaines maladies très graves, si c'est pas reparti au bout d'un an, c'est bien parti, et d'autres récidivent beaucoup plus tard, mais voilà.
Ouais. Mais pourtant, moi, j'ai, j'ai des patients qui ont été évidemment traités par le cancer et qui me disent le médecin m'a dit circuler, il n'y a plus rien à voir, vous êtes guéri, on ne se revoit plus, c'est pas la bonne méthode.
Ce qui n'est pas une bonne chose parce que c'est une période très difficile pour le patient. Vous savez que le taux de dépression et de suicide après guérison n'est pas du tout nul. Ouais. C'est-à-dire que quand on dit, bah voilà, c'est terminé, vous avez passé 1, 2, 3 ans avec nous, maintenant allez vivre tout seul, inventer la vie qui va avec, ouais. C'est pas quelque chose de facile la guérison.
C'est dire si l'art de la communication en santé, c'est important ?
C'est important et surtout de prendre en compte tous les acteurs. Parce que le médecin, il a une place évidemment centrale pour expliquer tout ça. Mais prendre en charge les soignants qui sont autour et qui vont eux-mêmes annoncer des choses, mais aussi les proches et notamment le conjoint ou la conjointe, c'est essentiel parce qu'ils portent beaucoup.
Donc une communication qu'on n'apprend pas à la fac, hélas.
Alors, on n'apprend pas à la fac, en tout cas pas de manière formelle. On a des procédés de communication pour annoncer par exemple une mauvaise nouvelle. On donne un plan, quelques guidelines pour savoir comment faire. Mais en pratique, il y a beaucoup de vécu dans tout ça. Mais pour autant, je pense que, et c'est un de mes dadas, les étudiants, ils doivent regarder comment font les plus vieux, critiquer éventuellement parce qu'on ne fait pas toujours bien, mais s'en inspirer. Parce que ça, c'est être un médecin, ce n'est pas avoir des connaissances. Et c'est plus difficile.
Laure Guérou-Acolas, donc vous avez fondé donc l'association Patients en Réseau que vous dirigez. Quelle est sa mission principale ?
Notre mission, c'est la première association de patients digitale. Ça veut dire qu'en fait, quel que soit le lieu de vie et de soins des patients touchés par des cancers, du sein, du poumon, gynéco et colorectal, on va pouvoir échanger, se soutenir. En fait, c'était de gommer les kilomètres et de se retrouver pour faciliter l'échange entre pairs et la circulation d'infos utiles et fiables.
L'échange entre patients ?
Entre patients ou entre proches aidants. Parce que comme vous l'avez souligné, parfois c'est aussi typiquement pour des patients plus âgés, ça peut être les enfants qui accompagnent leurs parents âgés malades et qui cherchent beaucoup d'informations et qui sont parfois désemparés. Donc c'est voilà, d'aider les uns et les autres dans cette réalité face à l'épreuve de la maladie.
Alors on dit souvent l'espoir fait vivre, ça prend toute sa signification en post-cancer.
Alors en fait,
dans la communication avec le patient, dans le...
Oui, je pense qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que quand on vous annonce un diagnostic de cancer, en fait le monde s'écroule sous vos pieds. Tout d'un coup, vous êtes préoccupé par votre santé. Est-ce que vous allez vous en sortir de ce cancer ? On a quand même toujours très peur de ce qui peut se passer. Et puis ça vient chambouler votre vie personnelle, votre vie professionnelle. En fait, donc toute votre organisation de vie s'écroule. Et au moment du diagnostic notamment, les mots l'équipe de soins, que le médecin va utiliser sont fondateurs de comment je vais rentrer moi dans mon parcours de soins. Et c'est vrai que là entre en jeu cette idée d'espoir. Donc si j'ai une maladie localisée, on imagine assez volontiers qu'on va se mettre entre parenthèses avec l'espoir de guérir et on va se traiter, on va se soigner, on va être accompagné. Mais quand on a une maladie plus avancée, soit d'emblée métastatique, soit qui récidive et qui devient métastatique, donc là elle est plus préoccupante, elle fait beaucoup plus peur en termes de pronostic. Vous avez parlé d'un terme qui est de plus en plus utilisé, et tant mieux, c'est qu'en fait on fait, et ça les gens ne le savent pas forcément, on a fait des progrès considérables, on vit de mieux en mieux et de plus en plus longtemps avec une maladie avancée. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on devient des malades chroniques mais avec une incertitude, parce qu'en fait c'est des lignes de traitement, donc il y a des moments où ça va bien et des moments qui vont être compliqués à gérer. Et là, l'espoir de vivre avec le mieux possible et le plus longtemps possible est fondateur de pouvoir aussi rester dans la vie. C'est-à-dire que si je ne meurs pas de mon cancer, si vous, grâce à ces traitements et à votre accompagnement de soignants, on peut vivre, mais il faut qu'on puisse vivre tout court dans la société. Donc ça, c'est majeur et en fait, c'est un espoir considérable qu'on peut partager aujourd'hui.
Pascal Hamel, donc il faut apprendre, avec les autres, évidemment, maillons de la chaîne, il faut apprendre aux patients à vivre avec son cancer.
Oui, mais nous aussi, il a fallu qu'on apprenne à apprendre aux patients avec son cancer. C'est-à-dire que leur dire, faites des projets. Moi, je passe mon temps à dire ça. Prenez des petits voyages au début, élargissez l'horizon si jamais on voit que la maladie est bien stabilisée, même si elle n'est pas guérie, et leur redonner envie de vivre. Parce que, comme j'ai toujours, il faut que la chimiothérapie rentre dans un petit coin de la vie. Et si c'est la vie qui rentre dans la chimiothérapie, dans les chirurgies, etc., les patients vivent plus vraiment. Et ça, c'est un vrai challenge qu'on a.
Oriane Cano-Chancel, pour finir, donc ce projet, donc ce comité de réflexion, Espoir de guérison, c'est une réussite qui ne demande qu'à récidiver.
Tout à fait, ce sera une récidive positive, je l'espère. Effectivement, il y a eu énormément d'échanges sur cette première journée. Tous les éléments qui ont été discutés, on est en train de les mettre en forme pour être capable de les partager avec les soignants, avec les associations de patients partout sur le territoire et d'avoir ces échanges, parce que c'est vraiment de là que la magie est née. Les échanges comme on a aujourd'hui sur ce plateau, entre les patients, entre les soignants, entre les aidants, et pour faciliter cette alliance thérapeutique.
Merci, merci à vous trois pour ce que vous faites. On va à présent accueillir Frédéric Collet, qui est ambassadeur du plan France 2030, qui va nous parler à l'occasion de Choose France de l'attractivité de la France en matière de cancer et d'intelligence artificielle.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Frédéric Collet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Check-up Santé.
Merci.
Vous êtes un expert reconnu dans le monde de la santé. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et d'Université Paris 2. Vous avez été président de Novartis France. Je ne vais pas faire tout votre CV, sinon il y en a pour une heure. Vous avez été président du LEM.
Oui.
Et vous dirigez la FIAC, la filiale IA et cancer.
Absolument.
Alors, Choose France s'est passé il y a quelques jours. Pourquoi ce sommet est-il si important ?
Parce que c'est un sommet qui travaille sur l'attractivité et qui mobilise les ressources sur l'attractivité. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des premiers invités à Choose France avec mon labo à l'époque. Et nous avions été reçus par le président de la République pour valoriser la façon dont les laboratoires reconnaissent ce pays, la façon dont ils y investissent. Et moi, un de mes gros sujets, c'est vraiment l'attractivité. Et la FIAC en est un bon exemple. Et donc, ce sommet, il est très important. C'est pas anecdotique.
Pas seulement en santé.
Pas seulement en santé. Il y a eu 1 milliard, j'ai vu, d'investissements en santé, ce qui est une très bonne nouvelle. Mm-hmm. 15 milliards au total, et ça montre le regard porté sur la France, la façon dont, justement, les entreprises qui y investissent la considèrent. Et c'est vraiment, encore une fois, un événement important.
Malgré cette attractivité qui est quand même incroyable en France, malgré, on pourrait se dire, les grèves, malgré les freins administratifs,
c'est
juridiques.
On est quelquefois un peu dur avec nous-mêmes, dans la façon dont on se considère.
C'est un peu vrai. Donc, la santé y était évidemment extrêmement présente. Vous dirigez donc la filiale intelligence artificielle et cancer. Quelle est sa mission?
L'objectif de la filière, c'est comme toutes les filières, c'est de mobiliser des ressources pour faire deux choses, pour accélérer le développement de solutions innovantes, et puis pour justement mener des projets sur des solutions innovantes dans le domaine du cancer. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on la combo IA et cancer, ça fait un peu peur, en fait. Mm-hmm. Parce que l'IA, on voit les perceptions qu'il peut y avoir autour de ça, et le cancer, j'ai pas besoin d'insister sur le fait que c'est quelque chose d'un peu anxiogène.
Oui, on pourrait voir le bon côté de la chose. L'IA
absolument.
Qui améliore le diagnostic,
absolument.
Qui améliore le prédit.
Et justement, ce qui est fascinant, c'est que l'IA, dans le domaine du cancer, permet d'utiliser une masse extraordinaire de données de santé de tous ordres que nous avons, qui soient des données qui sont sur nos registres, qui sont des données que nous collectons de 1000 façons différentes.
Et c'est le principe même de l'IA.
C'est le principe même de l'IA. Mais dans le domaine du cancer, où la collecte de données est particulièrement importante, l'IA joue un rôle particulièrement important, notamment pour accélérer le développement de solutions innovantes. Alors, la FIAC, qui n'a rien à voir avec l'art contemporain, mais la FIAC, la filière IA et cancer, a en fait une méthode qui est très simple. C'est de rassembler des acteurs privés et des acteurs publics. Et c'est intéressant parce que dans une publication qui a été faite à la fin de l'année dans une revue d'oncologie, ce partenariat public-privé a été souligné comme un facteur particulièrement inédit et innovant en France, qu'il faut reconnaître. Et donc, ces laboratoires qui ont chacun contribué au financement de ces projets viennent également avec des projets. Et on a donc d'un côté ces laboratoires, on a aujourd'hui les 9 plus gros laboratoires, ou parmi les 9 plus gros laboratoires de recherche mondiale dans l'oncologie, et on est prêt à en accueillir d'autres, et puis également des acteurs publics, au premier rang desquels on a l'INCa, le Health Data Hub, et d'autres acteurs.
Ça n'a pas toujours été le cas, cette association entre
symbiose
entre public et le privé, non ?
Exactement, et c'est là où l'enjeu de la FIAC est exceptionnel, c'est parce qu'elle permet de fédérer ces ressources et de les faire bosser ensemble sur des projets qui sont concrets. La FIAC, en fait, a un objectif qui est la preuve par l'exemple, la preuve par la réalisation. Et aujourd'hui,
à la FIAC... Des projets concrets, vous avez des exemples ?
Justement, on a aujourd'hui exactement 13, puisqu'on a validé un projet récemment. On a 13 projets, et le premier d'entre eux publie ses résultats, et les résultats seront publiés à l'ASCO, donc au Congrès mondial d'oncologie, dans 15 jours. Donc ça vous montre la capacité de la FIAC à porter et faire avancer des projets. Et j'insiste sur un sujet, c'est que ces projets sont des projets collectifs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets qui sont appropriés par ici l'INCa, ici un labo, ici... Non, ce sont des projets collectifs menés ensemble, partagés de façon collective, oui, et dont les résultats sont évidemment partagés.
Alors, vous parliez des Big Pharma, des gros labos internationaux, mais l'innovation, elle vient aussi des start-up, elle vient aussi des petites entreprises. Là aussi, vous poussez à l'innovation.
Alors, c'est intéressant parce que dans le...
Vous les motivez, vous les sensibilisez.
Ben oui, parce que, en fait, sur un euro sur deux que nous dépensons à la FIAC va vers le tissu des start-up. Donc là, la FIAC joue son rôle pleinement d'incubateur, mais surtout un rôle de fédérateur et donc de développement de l'attractivité. Et on a tout un tas de start-up qui bénéficient justement de ces investissements, de ce développement de la FIAC et qui se développent grâce à ça.
Alors, vous avez été un des six acteurs de la mission Borne avec Elisabeth Borne, et qui a proposé d'ailleurs, là c'est une espèce de think tank, vous avez proposé des mesures.
Je ne sais pas, mais nous étions six à qui la Première Ministre avait confié une mission pour travailler sur le financement des produits de santé. Et en fait, l'histoire est très simple, c'est que la France, comme beaucoup d'autres pays, fait face à une certaine tension sur le financement des produits de santé pour deux raisons. Il y a des raisons qui sont propres à tous les pays, la population augmente et elle vieillit, c'est le principal facteur. Et quand on vieillit... Donc ça coûte plus cher. Ouais. Et puis l'innovation est extrêmement fertile. Et cette innovation, ben on parle d'IA et de cancer, hein, mais cette innovation, elle est de plus en plus ciblée. Donc on ne parle plus des cancers, on ne parle même plus d'un certain type de cancer. Le cancer devient à certains égards une maladie rare. Et donc on a d'un côté... d'abord ce vieillissement, ce développement de l'innovation, et puis de l'autre côté on a également en France des facteurs qui nous sont un peu spécifiques dans la façon dont on a voulu justement gérer ce financement. Et pour faire très simple, quand vous êtes un acteur public et que vous devez gérer les comptes de la santé, vous avez finalement trois leviers dans la main. Vous avez un levier, ce que je pourrais appeler les volumes, c'est-à-dire que vous réglez le volume de consommation, de la prescription. Vous avez un deuxième levier qui est la valeur, donc les prix. Comment est-ce que j'ajuste le prix? Et puis un troisième levier qui est ce qu'on pourrait appeler la structure, c'est-à-dire faire en sorte que les gens utilisent...
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue d'Actualité économique du jour.
Chaque jour, toutes les équipes de BFM Business sont mobilisées pour vous donner toutes les informations économiques et financières dont vous avez besoin pour comprendre le monde qui vous entoure. Tous les matins, de 6h à 9h, en simultané sur BFM Business et RMC Découverte,
c'est un bien commun et nous devons tous en prendre soin, les prescripteurs, les laboratoires, les acteurs économiques, l'État et les patients. Et il n'y a rien de gratuit dans ce monde.
Et pour finir, donc la santé a quand même une certaine empreinte carbone qu'on ne considérait pas jusqu'à présent.
Et effectivement, dans ce rapport, nous avons insisté. Je crois qu'il n'y a plus un rapport public qui peut sortir aujourd'hui sans un volet sur justement l'empreinte carbone. Et la santé, pour vous donner un chiffre, c'est 8% de l'empreinte carbone générale et 4%, donc la moitié, c'est lié aux médicaments, au développement, aux fabrications, à la livraison, etc. Donc il faut s'en préoccuper et là aussi nous faisons quelques recommandations.
Merci beaucoup Frédéric Ollet, merci beaucoup.
Merci Fabien.
Place à la chronique de Rémi Tesson, patron de Buzz e-Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Rémi, bonjour.
Bonjour Fabien.
L'incontournable de Check-up Santé, patron de Buzz e-Santé. Alors, l'espace européen des données santé vient d'être créé ?
Exactement, le Parlement européen a voté donc sa création, qui permet du coup de créer une harmonisation en fait de toutes les données de santé à travers l'Europe, et donc un citoyen européen pourra avoir accès à ces données de santé où qu'il soit dans l'espace européen, et ça permet de protéger aussi davantage ces données-là.
En plus du RGPD.
Exactement, ça vient.
C'est complémentaire,
Voilà, le RGPD, c'est pour toutes les données personnelles au sens large, et là, c'est vraiment axé sur les données de santé, et donc ça permet d'avoir un peu un niveau de sécurité et d'accès qui est simplifié.
Alors, parlons de l'OMS, qui lance un produit donc sur l'intelligence artificielle.
Exactement, donc ça fait pas mal d'années qu'ils font des travaux, des recommandations sur l'intelligence artificielle, et ils ont franchi le pas en créant leur propre IA générative, qu'ils ont appelée Sara, et qui permet de donner des conseils sur des pathologies, sur l'alimentation, la nutrition, l'activité physique, la santé mentale, etc. Et donc c'est une IA générative avec un avatar qui permet de répondre aux questions.
Une application sur laquelle on peut se...
Sur Internet, et vous avez du coup cet avatar qui vous répond à toutes vos questions.
Et Sarah, ça s'écrit S-A-R-A-H.
Exactement.
Comme le prénom. Enfin, la start-up du mois.
Alors, la start-up du mois, c'est Kiro. Mm-hmm. C'est toujours compliqué de lire les rapports d'analyse biologique quand on fait des examens. Et donc, c'est une start-up qui permet de faciliter la lecture de ces rapports-là pour les patients, également
pour les accompagnants.
Et accompagne également l'ensemble des biologistes dans le fait de démocratiser aussi la compréhension de tous ces rapports-là.
Ouais, Kiro est utilisé par... tous les biologistes de France.
Alors, c'est en train d'être déployé assez largement. C'est une start-up qui prend beaucoup d'ampleur et qui deviendra rapidement incontournable, je le pense.
Merci Rémi Tesson. Donc, vous revenez bien sûr quand vous voulez. On va à présent accueillir Alexandre Regnault à la tête de la santé et des sciences de la vie chez Simmons & Simmons.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Alexandre Regnault, bonjour et bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes avocat.
Absolument.
Et vous êtes au cabinet donc Simmons & Simmons et vous êtes chargé de la santé et des sciences de la vie. En quelques mots, Simmons & Simmons, ça a déjà 30 ans ?
Alors, ça a presque 40 ans à Paris.
D'accord.
Et ça a plus de 125 ans puisque c'est un cabinet qui a été créé en 1896 à Londres. Donc, c'est une vieille dame anglaise.
Donc, c'est un cabinet européen, on va dire ?
Européen et au-delà, puisqu'on est présent effectivement en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, 22 pays en tout.
Ouais. Et la partie France est une grosse partie importante.
Absolument, le bureau de Paris est le deuxième bureau, après celui de Londres.
Alors, vous vous occupez de la santé et des sciences de la vie, bien sûr, vous êtes entouré d'autres avocats, mais pas que.
Exactement, c'est une équipe pluridisciplinaire. On est une quarantaine à s'occuper de santé et de sciences de la vie à Paris, avec en effet des pharmaciens qui sont également avocats, avec un médecin, et puis plus largement dans l'équipe et même au-delà de Paris, différents avocats qui ont une formation scientifique ou médicale.
Le médecin qui est avocat aussi, non ?
Le médecin, c'est le seul qui ne soit pas avocat. Je n'ai pas encore réussi à lui faire passer le barreau.
Pourtant, la médecine... peut aboutir à tout.
Hein. Et oui, et ce sont des expertises en tout cas très complémentaires dans notre quotidien.
Alors, à qui vous vous adressez, vous, votre cabinet, surtout en santé ?
Alors, on travaille essentiellement pour des industriels, des produits de santé au sens large, donc que ce soit médicaments, dispositifs médicaux, diagnostics, produits de santé régulés, la santé numérique et digitale, bien sûr, et puis également, dans une mesure plus petite mais croissante, pour des établissements de santé, des institutionnels ou des professionnels de santé qui se regroupent, par exemple.
Alors, parmi vos différents services, il y a un service de conseil, c'est ça ?
Absolument. Alors, on est sur tous les métiers de l'avocat qui sont en fait le conseil, le contentieux et le transactionnel. Alors, dans le conseil, on accompagne nos clients dans le déploiement de leurs produits ou de leurs services un petit peu sur tout le cycle de vie. Donc, on va intervenir, puisque le juridique est en fait absolument partout, depuis, pour prendre l'exemple de produits de santé, le clinique, voire le préclinique, on accompagne juridiquement la recherche.
From bench to bed ?
Absolument.
De la paillasse au lit du patient ?
C'est exactement ça, puisqu'après, on aura l'étape, bien sûr, de la mise sur le marché. Les avocats travaillent sur le market access, surtout quand ça devient un petit peu tendu sur l'évaluation HTA ou sur le prix ou le remboursement. Et puis après, toutes les problématiques de commercialisation, de droit de la concurrence, de protection de la propriété intellectuelle et au-delà, réglementaire au sens large, réglementaire et conformité.
Justement, vous vous occupez aussi du côté contentieux. On est dans un monde de plus en plus procédurier ou pas ? Est-ce que ça change pour vous ?
Un petit peu. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas quand même dans l'univers des États-Unis qui a pris des proportions quand même très différentes. Le volume des contentieux tend à augmenter, mais je dirais de manière un peu plus sage en Europe. Il y a un certain nombre d'outils procéduraux qui sont mis à disposition des personnes qui veulent rechercher une indemnisation parce qu'ils estiment à tort ou à raison que quelqu'un est responsable de leur dommage. Et ça, c'est plutôt bien que ces outils existent. Mais je dirais on a une tradition juridique en Europe de mesures, d'abord parce qu'on ne compense que le dommage qui a été subi et on n'a pas la différence des États-Unis, ce qu'ils appellent le punitive damages.
Heureusement. Donc, c'est vrai que la santé, c'est un univers très réglementé, notamment entre les institutions publiques et les experts, l'industrie pharma et les médecins. On a ces fameuses DMOS. On a l'impression qu'on est passé d'un extrême à l'autre ces 20 dernières années.
Alors, il y a eu un changement d'abord qui a pris la voie de la loi, du changement de la règle de droit avec ce système. Maintenant, on dit encadrement des avantages et puis on dit encore parfois DMOS ou anti-cadeau qui s'est resserré au fil des ans. Alors, il y a un côté un peu moins sympathique parce que, on va dire, dire que c'est de plus en plus tatillon. Mais en même temps, je dirais, d'abord, c'est une attente sociétale. Et ça, je pense que personne ne s'en plaint. Les professionnels de santé eux-mêmes étaient demandeurs quand même aussi d'un cadre.
Les étudiants aussi, d'ailleurs.
Les étudiants aussi. Les étudiants, hein, vous avez vu tout le mouvement, No Lunch Tanks, etc. Voilà, il y avait une attente quand même, je pense, de l'écosystème. Et puis, quelque part, le fait d'être arrivé à un système maintenant avec un contrôle des ordres professionnels et puis avec des barèmes très précis, le déjeuner, ça dépasse pas tant d'euros, etc. Bah, au moins, c'est la prévisibilité. On sait plutôt à quoi s'en tenir. Donc, c'est plutôt pas plus mal.
Vous disiez l'industrie pharma, mais aussi les dispositifs médicaux qui subissent aussi, qui sont aussi très, très réglementés.
Qui sont aussi très réglementés.
Ils n'ont pas le droit, par exemple, de faire de la pub sur les réseaux sociaux.
Alors voilà, ils ont le droit de faire de la publicité, mais pas n'importe comment, avec soit une déclaration
encadrée,
soit une autorisation. Les réseaux sociaux, bah, c'est toujours, mais ça, comme pour le médicament, c'est toujours difficilement maîtrisable en fait. Hein, donc il y a des contraintes un petit peu particulières. Mais le DM, en effet, surtout avec ce fameux règlement DM de 2017, a pris une marche réglementaire très très haute. Et maintenant, le vrai problème, c'est de trouver assez d'experts, puisqu'en réalité, les industriels sont en concurrence avec les organismes notifiés pour trouver les bons experts en conformité.
Ouais. Juste pour finir, donc on la met toutes ces sources d'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va changer la vie du monde de la santé et de sa gestion rapidement, en une phrase?
Bien sûr. Ça va être un changement majeur. Et les avocats seront là pour les accompagner.
Merci Alexandre Agneau, merci de chez Simone Saint-Simon. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.